Généalogie naturelle, 16 084, Père Philippe, Saint-Joseph. Nous sommes donc dans la question 5, l'article 2. Père, est-ce que la considération du bien ne permet pas de dire que l'homme est plus image de Dieu que les autres créatures, ce que ne permettait pas la simple considération de l'être? Oui, parce que c'est du côté de la finalité. On est image en fonction de la finalité. C'est toujours ce que je veux. Qu'il faut bien comprendre, c'est que cette relation immédiate à l'égard de Dieu, dans le retour vers Dieu, nous fait découvrir la dimension religieuse et la dimension du sacré. Alors, on est image dans la mesure où on remonte immédiatement vers Dieu. Alors, je sais très bien que pour les pères d'Église, c'est la ressemblance qui est du côté de la finalité et l'image qui est du côté formel. Ça, nous y reviendrons. Pour le philosophe, c'est par la ressemblance qu'on découvre l'image. Dieu nous a créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il y a les deux expressions. La ressemblance, c'est le point de vue de la finalité. Et l'image, c'est du côté de la cause formelle. Mais comme on est ici dans une perspective philosophique, c'est très vrai que c'est par le point de vue de la finalité qu'on voit la proximité vis-à-vis de Dieu. Donc c'est par le point de vue de la ressemblance. Dans la foi, on peut dire image et ressemblance. Et dans une découverte, on dirait ressemblance et image. Alors continuons à essayer de comprendre comment le bien est secundum rationem antérieur à l'être. On était arrivé à la troisième objection. Ensuite, la priorité de raison, donc la priorité selon la raison. Très difficile à traduire, hein, parce que priorité de raison, ça ne va pas. Ça fait priorité logique. Alors on dirait, la priorité selon l'intelligibilité appartient à ce qui est le plus universel. Or, le bien semble plus universel que l'être, car l'idée de bien répond à celle du désirable. Et pour certains, il est désirable de n'être point, comme en témoigne ce jugement de l'Écriture à propos de Judas. Mieux vaudrait pour lui que cet homme ne fût pas né. C'est extraordinaire que cette parole de l'Écriture à l'égard de Judas montre que le bien est antérieur à l'être. Qui l'aurait cru? Voyons la réponse de saint Thomas. Quand il est dit de certains qu'il vaudrait mieux pour eux ne pas être, on ne déclare pas pour cela que le non-être en lui-même soit désirable. C'est très juste. C'est évident, c'est comme l'instinct de mort. L'instinct de mort que Freud dit qu'il y a en chacun d'entre nous, eh bien l'instinct de mort, ce n'est pas un instinct. Vous pourrez dire que la défaillance d'une espérance de vie vous conduit à la négativité. Mais c'est second, vous voyez, c'est pas premier. Tandis que quand vous parlez d'instinct, ça voudrait quelque chose de premier qui porterait sur un bien. Et c'est pour ça que c'est très juste ce que dit saint Thomas, et ça c'est très intéressant. Cela ne veut pas dire que le non-être en lui-même soit désirable. Le non-être n'est pas désirable. Et donc la mort n'est pas désirable, au sens absolu. Il se trouve accidentellement qu'il le soit comme destructeur du mal dont la fuite est pour nous un bien. On désire la mort parce qu'on souffre trop. Alors on désire que la souffrance soit supprimée. Donc on désire la mort tout simplement comme la suppression de la souffrance. C'est tout à fait autre chose, vous voyez. C'est pas du tout premier. Donc il se trouve accidentellement que le non-être soit désirable comme destructeur du mal, dont la fuite est pour nous un bien. Fuir le mal, dans certaines circonstances, quand on souffre trop, c'est bon. Supprimer le mal, c'est bon, ça nous apparaît comme bon. Psychologiquement, c'est bien évident. Ça nous apparaît comme bon, supprimer le mal. Et donc, à ce moment-là, n'importe quel moyen est bon qui nous fait supprimer le mal. Et donc, la suppression de la vie nous apparaît comme bon. Mais pourquoi la fuite du mal est-elle un bien, sinon parce que ce mal nous prive de quelque forme d'être? Ce qui se fait voir désirable en cela, c'est donc l'être et non pas le non-être. Un certain être est désiré de nous, le mal nous en prive. Si cette privation nous devient insupportable, nous regardons du côté du néant et l'appelons comme un bien. Mais l'ordre des notions en elle-même n'y est point affecté. Donc c'est le Perakshibens qui intervient. Or, dans l'ordre des notions, on est en face d'un ordre perçu. Très joli comme argumentation de Saint-Amand. Je crois que c'est assez facile à comprendre. Hein. C'est que si vous voulez la suppression du mal, c'est que le mal vous empêche d'atteindre tel bien. Donc c'est toujours commandé par le bien. Et le bien est une certaine forme d'être. Le bien n'est pas du non-être. Donc, il ne peut pas y avoir un instinct de non-être. Ce sont des existentialistes qui ont inventé ça, un instinct vers le non-être, comme s'il y avait un appétit vers le non-être. C'est bien, c'est la définition de l'être. On définit l'homme par la mort. On ne peut pas définir l'homme par la mort, puisque la mort est la non-vie. Donc, je ne peux pas définir quelqu'un par la négation. Et là, on voit bien ce qu'il y a caché de faux dans cette position, c'est que la négation passe avant l'affirmation. Alors, à ce moment-là, on veut définir par la négation, mais en réalité, c'est faux. Donc, voyons la dernière objection. Une dernière remarque confirme cette présomption, c'est que l'être n'est pas seul objet du désir, mais aussi la vie, la sagesse et beaucoup d'autres choses. L'être ne se présente donc que comme un cas particulier du désirable, dont le bien exprime au contraire l'aspect universel. Enfin, la vie, la sagesse et autres biens qu'on dit désirables en dehors de l'être ne le sont en réalité que sous les auspices de l'être, car on nous les désire qu'en tant qu'ils sont. Vivre, savoir, n'est-ce pas une forme d'être? C'est donc en eux l'être qu'on désire. En aucun cas, rien ne se fait donc voir désirable en dehors de l'être. Et par conséquent, en dehors de lui, rien n'est bon. C'est la même réponse. C'est que tout désirable implique un certain être. Tout bien désirable implique un certain être. Le bien est toujours un certain être. Et tel bien implique tel être en particulier. Donc je crois qu'on peut passer, on a sûrement secoué le vase dans tous les sens pour essayer de comprendre comment le bien, selon l'intelligence, est antérieur à l'être. Je crois qu'on a suffisamment secoué dans tous les sens. Voyons tout de suite maintenant l'article 3. Tout être est-il bon? Donc on fait l'inverse, hein? Vous voyez bien le mouvement. On a d'abord montré l'identité du bien et de l'être. On a montré la différence secundum rationem. Et une fois qu'on a pris la différence secundum rationem, on montre où est l'antériorité de l'être, où se situe l'antériorité du bien. Ça, on comprend. L'antériorité de l'être est dans l'ordre de l'intelligibilité. L'antériorité du bien est dans l'ordre de l'exercice des causalités. C'est très net là-dessus. Alors, ici, on va se poser la question, tout être est-il bon? Oui. Pouvez-vous avoir un être il est bon. Alors, est-ce que je peux dire par exemple qu'une zone particulière, je m'arrêterai, tout être est-il bon? Y a-t-il une zone de l'être qui est neutre par rapport à la zone? La neutralité affecte-t-elle, va-t-elle affecter l'être? Est-ce que vous pouvez avoir un autre neutre? C'est intéressant, je dirais, que vous dites comme question. Vous dites l'être de raison. L'être de raison égale l'universel. L'être de raison, c'est celui que l'intelligence a créé tout simplement en pensant. C'est l'universel. L'être de raison, c'est l'universel. L'être de raison, mais l'univers, c'est l'univers. Ça, c'est la neutralité de l'objectif. Tandis que ce qui est peut-il être neutre? La neutralité est-elle en métaphysique ou simplement en logique? Alors, on va voir la question. Tout être autre que Dieu est créature de Dieu. Or, toute créature de Dieu est bonne. Au dire de l'apôtre, et Dieu, lui, est souverainement bon. Il y a donc une chose qui est la grande parole de saint Augustin. Toute créature de Dieu est bonne. En tant qu'elle est une créature de Dieu. Elle participe à la bonté. Dieu, il est souverainement bon. Là, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Vous voyez, vous êtes dans un jugement de sagesse, hein? La créature. Toute créature, en tant que créature, est bonne. La question, c'était, tout être est-il bon? Pas tout à fait la même question, hein? La vérité est que tout être, pour autant qu'il est être, est bon. Je tiens de dire, omne ens, in quantum est ens, est bonum. Le latin est plus rigoureux. Tout ce qui est, en tant qu'il est bon. En effet, tout être, en tant qu'il est ens, est un acte. Et d'une certaine manière, parfait. Parce que tout acte est une certaine perfection. Or, le parfait a la raison d'être équilibre et devient, comme il a dit. Donc, tout être, en tant que de cette manière, est bon. Vous voyez que c'est encore la notion d'attestibilité qui sert de métaxus. C'est la notion d'attestibilité. Tout être, en tant qu'il est elle, est un acte, et d'une certaine manière parfait. Parce que l'acte implique une perfection. Or, la perfection a la raison d'attestibilité, d'où il suit que l'être, en tant que de ce mode, est bon. C'est l'attestibilité et l'acte, c'est les deux. L'attestibilité et l'acte, c'est les deux aspects sous lesquels nous rejoignons au point de vue de l'être et du bien. Que nous montrons que tout être, tout cette même chose, je ne peux pas m'arrêter là. L'être rejoint le monde. Il y a une différence, c'est l'être rejoint la vie. Pourquoi? Parce que tout être, tout cette même chose, est un acte. Dit que cette même chose est un acte, il est parfait. Dit que cette même chose est parfait, il est parfait. Dit que cette même chose est un acte, il est parfait. Dit que cette même chose est un acte, il est parfait. dire cette dégradation merveilleuse. Hein. Tout être en tant qu'il est en acte. Tout être en acte est parfait, tout être en acte parfait est accepté, donc il est bon. C'est que la bonté est une accessibilité en acte. Vous faites même que je parte du monde, je vais être capable d'entrer de l'autre. Et de fait, il y a de l'autre partie qui ne sont pas. Il y a même des choses qui sont vraiment parfaites. Mais vous, le perfectum s'entend de deux manières. Quand vous parlez du parfait au niveau moral, ce n'est pas de toute manière. Quand vous parlez du parfait au niveau du parfait, c'est une pensée pas morale, mais aussi. C'est le hiatus au niveau moral entre parfait. C'est l'antinomie qui se comprenait par rapport à la créature. Donc, c'est pas au niveau de l'être, c'est au niveau de l'homme. Au niveau de l'homme, je peux dire la perfection et la bonté ne sont pas la même chose. Il y a des gens parfaits pour qu'il ne manque rien, intégralement parfaits. Oui, mais il y a des gens qui sont là, mais qui sont là. Il lui manque d'être capable d'attirer les autres. Et il n'est pas parfaitement bon. Il n'est pas parfaitement parfait. Il est parfait en ce sens négativement immanqué. On a tous fait le niveau de ça. Si j'en étais, dans un paradis, dans la ville de Lyon, sur son atelier, les agents de police de l'essence, veste extraordinaire. Mais ils sont intègres, ils sont parfaits. Ils sont pas bons. Ils ont eu peur d'être bons. Très souvent, ça arrive. L'éducation janséniste, on dit, a une perfection de la peur de la bonté. On sait plus si on est bon. Jusqu'où on pourra aller? L'interprétation de l'ennemi. Dans la bonté. Dans la bonté, personne ne croit. Mais on sent très bien ça. L'interprétation, il y a des règles. On sait où on va. La bonté, tout d'un coup, accepte ce terme. Vous voyez bien, on sent bien. On sent bien que vous avez une limite à l'interprétation. Mais l'interprétation, vous voyez, on peut prendre un modèle, vous allez voir ce que c'est. Celui qui prend l'idéal comme un modèle, c'est bien. Il prend l'idéal comme l'idéal. Tout le monde parfait, c'est pas bon. Ça, c'est vrai, ça me sent très bien. L'idéal pour rendre parfait. Parce qu'on peut être adéquat au modèle. Ça n'est pas bon. C'est la finalité qui vous rend bon, et c'est la finalité qui vous permet de rendre l'idéal de la perfection pour ce que vous rendez au niveau de la fidélité. Là, je crois que c'est facile à comprendre. Métaphysiquement, c'est facile à comprendre. Le demain est à ce niveau-là. Alors, on va voir tout simplement là, les objections. D'après ce qui a été dit, l'idée de bien, pas tout à fait simple, il semble en effet que l'idée de bien ajoute à celle de l'être et par toute la restreinte. Il ne faut pas dire l'idée de l'être, l'idée du bien. Vous sentez tout de suite que c'est faux. C'est faire ce qu'il en fait. Et il est d'accord dans le ciel, c'est évident. Il a compris qu'il avait ramené l'idée. Videtur, quod non omne ens bonum. Bonum enim habit supra ens. Il dit bonum. Il dit pas l'idée du bien. Alors est-ce que c'est la même chose, l'idée du bien et le bien? Non. C'est pas la même chose. L'idée du bien ajoute à celle de l'être. Et par suite, la restreint. Car ce qu'on ajoute à l'être en fait tel être. Comme la substance, la quantité, la qualité, et non plus l'être in communi. Donc l'être dans toute sa généralité. Mais si le bien réduit l'être, il y a donc de l'être étranger au bien. Ergo bonum contra hic ens. Ça, c'est une très belle formule. Hein? Ergo bonum contra hic ens. Non igitur omne ens est bonum. C'est très joli comme objection. Mauvais comme traduction, c'est très joli comme objection. Alors, la réponse. Il faut dire que la substance, la quantité, la qualité, et ces choses qui sont contenues sous celle-ci, contrahunt ens. Alors, ça contracte l'être, même la substance. Contrahunt ens. Applicando ens, en appliquant l'ens, ce qui est, vers une certaine fluidité ou nature. Or, ainsi, n'ajoute donc. Or, de cette façon, un certain bien n'ajoute pas, ne contracte pas l'être, mais seulement en ajoutant la raison d'appétibilité. Et la raison de perfection, vous voyez, appétibilité et perfection sont mis ensemble. Ce qui convient à l'essai lui-même en tant qu'il est une certaine nature. D'où le bien ne contracte pas l'être. Ça, c'est très très joli pour voir la différence entre les prédicaments et le point de vue de l'être et du bien. Qualité de vie prédicament. Quelle différence est-il entre le point de vue de transcendance, le bien, le vrai, le par rapport à l'être, et le bien. Vous pouvez dire, hein, vous pouvez dire que l'aise, ce qui est, en découvrant ce qui est, il faut ce qui est, l'aise, ce qui est contracté, contracté, c'est-à-dire déterminé, précisé, mais perd par le fait même son caractère absolument universel. Et contracté par puissance, quantité, qualité. Les dix prédicaments nous donnent les modalités de ce qui est. Donc, ce sont les modalités de ce qui est, les dix prédicaments. Ce sont les dix prédicaments, les modalités de ce qui est. Les dix prédicaments contractent l'être. Et vous comprenez, j'espère tout de suite, quand je dis substance, je ne dis pas qualité. En qualité, c'est de l'être. Substance, c'est de l'être. Donc, quand je dis substance, je ne dis pas qualité. Je ne dis pas donc tout l'être. Quand je dis le contrat, c'est l'être. Je reprends, vous voyez bien ça, c'est pour saisir. Pour saisir ça, c'est très important. Parce que ça fait partie de gymnastique intellectuelle dans laquelle vous rentrez. Vous voyez bien, qui dit substance, c'est du taille de quantité, c'est du taille de qualité. Or, la qualité, c'est qui? La quantité, c'est qui? La substance, c'est qui? Puisque la substance se distingue de la quantité et de la qualité, qui sont elles? Quand je dis substance, je contracte l'être. Je ne prends qu'un aspect de l'être, une modalité de l'être. Et je laisse tomber les autres modalités de l'être. Tandis que quand je dis être, tout court, je dis aussi bien substance, qualité, quantité. Tout ça, c'est de l'être. Tout ça, c'est de l'être. Tout ça, c'est de l'être. Donc, ça reprend tout l'être. Ça, Tandis qu'au contraire, quand je regarde le bien, le vrai, le transformateur, et non pas le prédicament. Quand je regarde le transformateur, je regarde le lien qui existe entre le bien et le bien. Est-ce que le bien contraste l'être ? Bien non. Le bien ne contraste pas l'être. Quand je dis être, quand je dis bien, il y a la même extension. Pourquoi ? Parce que justement, le bien ne s'oppose pas au vrai, il ne se distingue pas du vrai par la substance de la qualité. Le bien est le est vrai. Le bien est un. Les transcendantaux sont convertis avec l'être. S'ils sont convertis avec l'être, je veux dire que tout ce qui est bien est être, tout ce qui est être est vrai, tout ce qui est être est un. Les transcendantaux sont convertis les uns par rapport aux autres et par rapport à l'être. Donc, le bien ne contraste pas l'être. Donc, quelque chose de tout à fait différent. Je suis ici à un niveau analogique. Je suis ici à un niveau aussi analogique, mais pas du tout la même analogie. Donc, il y a deux manières de l'analogie. Ici, je suis dans une analogie très particulière. Aristote ne l'appellera jamais analogique, c'est simplement, à cause des arbres. Il se voit la belle Aristote n'est pas analogique. Un ordre. Un ordre, c'est un premier. L'être se dit de multiples manières. L'être se dit de la substance, de la quantité, de la qualité. Selon un certain ordre. Un ordre qui est un premier. Dès qu'il y a un premier, c'est le ordre. Alors le premier, c'est la substance. L'être se dit en premier lieu de la substance, mais l'être se dit aussi de la quantité de la qualité. L'être se dit aussi du situs. L'être se dit aussi de l'action et de la passion, des dix prédicaments. Tandis que quand je dis l'être se dit du bien, du vrai et de l'âme, ce n'est plus du tout de la même façon. C'est tout à fait autre chose. Parce qu'il y a une convertibilité entre les deux. Donc je pars de la ratio de mort. D'une façon tout à fait différente. Le mort et la ratio dont il s'agit de transcendance sont impliqués l'un dans l'autre d'une manière telle que le mort ne contracte pas. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de prédicaments, il y a une contraction. Contraction. Ça, il faut essayer de saisir. Essayer, c'est important. La différence entre les transcendantaux et les prédicaments. Les prédicaments sont des modalités particulières de l'être. Ils indiquent entre autres un ordre vers un premier. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit des transcendantaux, le vrai, le bien, la qualité, ils sont convertis de l'être. Et donc le bien ne contraste pas. Voyons tout de suite la seconde objection. Elle était très jolie cette première objection parce qu'elle montre bien la différence. Le niveau du bien et de l'être demeure au même niveau d'intelligibilité. Tandis qu'au contraire, le niveau entre les prédicaments et l'être, ce n'est pas le même niveau d'intelligibilité. De plus, le bien ne doit pas être confondu avec le mal. Malheur à vous, s'écrit le prophète, qui appelez le mal bien et le bien mal. Or, n'y a-t-il pas des êtres qui sont mauvais ? Alors, on va répondre. Il faut dire qu'aucun être est dit mauvais en tant qu'il est être. Même Lucifer. Lucifer, en tant qu'être, n'est pas mauvais. C'est pour ça que Dieu peut le garder. Et le conserver dans l'être. Mais en tant qu'il manque d'un certain essai, alors il peut être mauvais. Il y a un manque. comme l'homme est dit mauvais en tant qu'il manque de l'être de la vertu. Et l'œil est dit mauvais en tant qu'il manque de l'acuité de vision. Donc il lui manque quelque chose. In quantum caret quantam esse. Voyez le langage de saint Thomas. Soyez très attentifs à ça pour ceux qui s'intéressent au langage de saint Thomas. Il y a est, grâce à l'esprit du Saint-Esprit, le mal apparaît. L'allume apparaît du point de vue de l'esprit. Très curieux. Passe au point de vue de l'esprit. Aucun être, aucun être est dit mauvais en tant qu'il est elle. Donc du côté de l'être, je ne verrai jamais apparaître le mal. Et du côté de l'esprit, je vais voir apparaître le mal. Très bien. Très intéressant. Le mal existe, mais le mal n'a pas de détermination de l'état. C'est pour ça que le mal apparaît du côté de l'esprit et pas du côté de l'être. Parce que l'être exprime tout de suite un aspect de détermination de l'état. Tandis que l'esprit exprime quelque chose qui est une manière d'exister. Le mal apparaît dans la manière d'exister, mais pas dans la forme. Il n'y a pas de forme mauvaise. Le mal est toujours un manque. Toujours. Le mal est toujours un manque qui existe. Donc le mal existe, mais le mal n'a pas de forme. C'est pour ça que c'est impossible de connaître le mal. Le mal est inintelligible. Il n'a pas de forme, il n'a pas de détermination. Il n'est pas au niveau de haine. Et ça, c'est très important. Le français, très difficile, parce que je vais vous traduire haine de Dieu, mais c'est la constante. Le cardinal traduit haine, l'être. Alors, quand il est vrai, c'est l'être. Alors, vous êtes obligé de dire l'être et l'exister. Non. C'est-à-dire, ce qui est haine, c'est quelque chose de concret. Esprit et abstrait. Et ça peut pas dire entre être et esprit, c'est la même chose que moi et blanchère. C'est pour ça que vous ne savez pas ce que c'est que l'esprit sans connaître ce que c'est que l'aime. Puisque l'esprit, c'est ce par quoi l'aime est. Exactement comme la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Haine, c'est quelque chose de concret, et esprit, c'est quelque chose d'abstrait. Ça, ça va dire explicitement, dans Bébronie. Bébronie, c'est un petit obscur, qui est très particulier, on voit. Et dans le Bébronie, ça va dire ça. Et le Bébronie n'est pas traduit en français, donc si parmi vous, il y en a qui aiment traduire par charité pour leur comprendre, ça va dire. Qui regarde le petit traité du Diogenes, ça vaut la peine. Le Diogenes, c'est un petit traité remarquable, merveilleux, pour la participation, pour les rapports entre elles et elles. Ça vaudrait la peine de traduire. C'est un petit traité, et en même temps, je vais vous faire un petit traité. Alors, si vous faites, traduisez-le, si vous traduisez la machine, pour que ce soit bizarre. Pour nous, nous en avons pas, parce que c'est de la peine d'avoir des compagnons directement dans le temps. C'est pas mal. Troisième objection. En outre, le bien répond au désirant. Or, la matière première n'est pas désirable. Elle est seulement délit en l'âme. Elle est chargée à l'enfer du bien. Ça, c'est le moment. La matière, c'est mauvais. C'est un autre point. La matière première. Oui, c'est la matière prima. La matière première. Comme l'espace est situé en nous. La matière première. Comme elle n'est se met dans son sens. Ainsi, elle le mise, mais une attention. Elle ne prend pas conscience, mais dans son sens. La matière première, elle, étendre l'air en son sens, mais aussi que du bien en son sens. Et cela me fait de confirmer la correspondance entre le bien et l'air. D'ailleurs, on pourrait dire, en se référant à l'opinion de Catholicien, que la matière première est un moment en raison de la privation qui lui est adjointe. Mais elle n'en participe pas moins le bien en quelque sorte, à savoir sous forme d'orientation, évidemment, d'une attitude à ce bien. Et c'est pour cela qu'il lui convient non d'être désirable, mais de tendre ou de désirer elle-même. Et c'est pourquoi même quand elle dit, vous voyez bien, cette chose assez complexe de la matière première. La matière première est in potentia. Donc la matière première, c'est l'être qui est en puissance. Elle n'est pas d'une lettre pure, puisqu'elle est de l'être en puissance. Et être de l'être en puissance, ce n'est pas le même être. Ça devait se distinguer les deux. Le non-être appelé, le non-être simplicitaire, le non-être absolu, c'est le rien, c'est le mélange. Tandis que être en puissance, c'est être en attente d'être là. C'est pas le non-être. D'être informe, d'être en attente, c'est d'être désir vers là. D'être ordonné vers là. Donc l'être en puissance implique un ordre vers là. Tandis que l'être pure négation, c'est du non-être, n'implique pas cet ordre. Alors, voyons la dernière question. Enfin, le philosophe assure que le bien est étranger à l'ordre mathématique. Or, l'objet de mathématique est l'air aussi. Sans cela, il ne pourrait changer rien. La question est très intéressante. La mathématique est intéressante. À quoi faisons-nous ? Il faut dire que les mathématiques ne subsistent pas séparées selon l'objet. Donc, les êtres mathématiques, ne subsistent pas séparées selon l'esprit. Parce que si elles subsistaient, elles seraient bonnes en elles-mêmes. C'est-à-dire, les connaissances qui seraient. Quelles sont Or, les êtres mathématiques sont séparés selon la raison seulement, en tant qu'ils sont abstraits du mouvement et de la matière. Et ainsi, ils sont abstraits de la raison de sens, de la raison de mouvement. Or, il n'y a pas d'inconvénient que dans un certain être, selon la raison, ne soit pas la raison de bien. Comme la raison d'être est première à la raison de bien. Donc, simplement, montrer simplement que les êtres mathématiques faisant abstraction de la matière et du mouvement, les êtres mathématiques comme tels, en tant qu'ils sont pensés comme êtres mathématiques, sont au-delà du bien. Le bien n'intervient pas dans l'être mathématique. Mais ceci n'empêche pas de dire que l'être mathématique est un certain être. pas le même être. Il est un certain être. Il est un être entre l'être réel et l'être de raison. L'être mathématique n'est pas l'être de raison. Il est lié à l'être de raison. Il est intentionnel. Il est intentionnel. Il a une existence intentionnelle. Il n'est pas l'être de raison. Donc il faut toujours bien distinguer l'être réel physique, ce qui est l'être mathématique, et l'être logique, l'être de raison. Et dans l'être réel, il faut distinguer l'être réel physique, composé, et l'être réel séparé. Et dans l'être réel, il faut encore distinguer l'être intentionnel de l'être de raison. Alors, les mathématiques font une petite synthèse entre l'être intentionnel et l'être de raison. Faites cette petite distinction. Ce qui est au niveau physique, au niveau incorporel, qui est distingué en opposition de l'esprit, le point de vue est le même. Objet de la vie. Qui est distingué? L'être intentionnel. La forme intentionnelle. La forme intentionnelle. La forme intentionnelle est réelle. Elle n'est pas la physique. Elle est réelle, mais elle n'est pas la physique. Elle distingue la physique. Donc, l'être mathématique, il est l'être mathématique. L'être mathématique est à la fois un être intentionnel et un être physique. Quoi qu'elle est deux, il n'est pas physique, il n'est pas une autre forme intentionnelle. Il est à la fois être intentionnel et fabriqué par l'intelligence. Il y a quelque chose dans les mathématiques qui implique un facere. Il n'y a pas de bonheur par le quantificatif. Vous avez le postulat mathématique, vous avez le postulat intentionnel, vous avez le postulat intelligent, vous avez le postulat de point de vue physique. Thank you.